Alors, on m'a demandé de traiter de la question du regard et des propositions de l'Église sur les questions de la vie économique et sociale sur un panorama historique et doctrinal, ce qui en trois quarts d'heure va être sans doute un peu compliqué. Donc je ne vais pas vous faire un résumé des positions de l'Église sur toute une série de thématiques, mais je vais plutôt réfléchir à cet objet qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire à ce discours qui, depuis 1891, comme le rappelait hier Jean-Marie Salamito, est produit par des papes successifs sur ces questions économiques, sociales et politiques. Quand je dis ça, déjà, j'ai restreint, si vous voulez, le champ, parce qu'on l'a bien vu hier, évidemment, ça fait 2000 ans, voire plus, hein, si on inclut le judaïsme dedans, qu'on a une réflexion en judéo-christianisme sur ces questions. Mais c'est vrai que ce qu'on appelle traditionnellement la doctrine sociale de l'Église est l'ensemble de ces textes qui, depuis 1891, est produit par les papes successifs, et j'y reviendrai. Quand on parle de ça, on est malgré tout confronté à un certain paradoxe, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'existence même de propos des papes, de propos de l'Église, entendus au sens du magistère pontifical, sur ces questions. Je vous en prends un exemple. Il y a quelques années, était paru aux éditions du CERF un livre de Thomas Aïré, qui est un jeune entrepreneur, qui avait publié un livre qui s'appelait « Vivre en chrétien Kézako », où il donnait quelques lignes qui l'avaient aidé dans sa pratique entrepreneuriale dans la doctrine sociale de l'Église. Et il commençait son livre en disant « Finalement, je me suis éveillé de ma torpeur en découvrant qu'en plus de parler en termes connus de l'amour, du pardon, de la famille, l'Église nous enseigne comment comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit en famille, au travail, au supermarché ou dans nos préoccupations écologiques. » Donc ce chrétien engagé ne savait pas qu'il y avait un corpus de textes qui réfléchissaient sur ces questions. Je vous prends un autre exemple que je n'ai pas mis sur les slides, qui m'avait beaucoup frappé l'année dernière, le quotidien La Croix, où il y a 2 ans avait fait un sondage sur l'impact qu'avait eu l'encyclique Laudato Si. Vous savez que l'encyclique Laudato Si, donc du pape François en 2015 sur les questions écologiques et environnementales, est une encyclique dont il nous arrive quand même d'entendre parler. On avait dit que beaucoup d'entrepreneurs, y compris non chrétiens, l'avaient reçu comme un texte assez positif. Et je fais le lien avec la conférence du frère Joseph Thomas tout à l'heure. La Croix s'est demandé, à travers un organisme de sondage, comment est-ce que l'opinion globale l'avait reçue. Je passe sur l'ensemble des Français, mais je ne me préoccupe que d'une population particulière qui sont les catholiques pratiquants. Vous aviez parmi les catholiques pratiquants plus de la moitié, je crois 52%, qui n'avaient jamais entendu parler de l'existence de cette encyclique. Je ne vous parle pas des catholiques sociologiques, même si je n'aime pas trop cette expression. Je vous parle des catholiques pratiquants, c'est-à-dire grosso modo aujourd'hui quelqu'un qui irait à la messe, selon les critères statistiques, attention, une fois par mois. C'est comme ça que les organismes de sondage définissent un catholique pratiquant. Donc quelqu'un qui a un contact relativement régulier avec l'Église. La moitié, plus de la moitié, n'avait jamais entendu parler de cette encyclique. Et ça dit quelque chose, sans doute, du fait qu'on compartimente sans doute un peu, et on pourra revenir là-dessus, peut-être d'une manière un peu libérale, on compartimente un peu les domaines de notre existence, y compris quand on est catholique pratiquant, et on se dit, ben, au fond, voilà, les questions économiques, sociales, politiques, ça ne devrait pas trop intéresser l'Église, ou même si ça l'intéresse, elle n'a pas grand-chose à nous dire d'intéressant sur le sujet. Opinion qui n'est pas partagée que par un micro-trottoir. Voilà, moi je fais un petit peu de théologie morale, et il m'arrive de participer à des colloques, à des congrès, bon. Et quand on me demande un peu sur quoi avaient porté mes recherches et que je dis que c'est sur la doctrine sociale de l'Église, j'ai toujours droit à un petit sourire gêné, vous savez, une espèce de temps d'attente comme ça où les gens disent « Ah oui, très, très bien. » Voilà. Donc ça, c'est quand je ne connais pas la personne, puis quand je la connais un petit peu mieux, notamment des frères, il leur arrive d'être un petit peu plus brut de décoffrage. Et j'ai un frère américain qui, de façon très directe, m'a dit, tu sais, moi, quand je lis la doctrine sociale de l'Église, pourtant c'est un frère assez classique, respectueux du magistère, il m'a dit, j'ai l'impression d'assister à l'élection de Miss America. Je lui ai dit, je vois pas trop le lien, parce que bon, ça ne me semble pas très bon. Il me dit, mais si, tu sais, dans les élections de Miss America, il y a toujours un moment où on demande à ces jeunes reines de beauté Au fond, qu'est-ce que vous feriez pour contre le chômage, par exemple? Bon. Puis alors elles répondent, ah ben, le chômage, c'est pas bien, c'est quand même mieux quand les gens ont de l'emploi. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de la guerre? Oh, la guerre, c'est mal, c'est quand même mieux quand il y a la paix. Voilà. Et il me dit, quand je lis la doctrine sociale de l'Église, j'ai souvent l'impression que c'est les réponses des candidates de Miss America. Voilà. Alors, ça ne m'a pas fait plaisir, évidemment, d'entendre ça, parce que je pense que ce n'est pas juste, mais ça dit quelque chose de cette impression, y compris de théologiens, que c'est quelque chose de pas très profond. Et puis, même en dehors des cercles théologiques, vous avez aussi des personnes qui disent, dans notre milieu professionnel ou dans notre milieu scientifique, les catégories dans lesquelles l'Église s'exprime pour parler de ces réalités-là sont tellement étrangères aux catégories de pensée dans lesquelles on fonctionne habituellement, qu'en fait, on ne peut pas les recevoir. On ne puisse pas les recevoir telles quelles, sans doute, mais qu'il n'y ait aucune possibilité de rencontre réelle, ça pose des questions. C'était dit de façon un petit peu critique par un spécialiste aussi de ces questions, Émile Poula, qui avait eu cette formule, qui avait dit « L'éthique des évêques a son économie et l'économie des économistes a son éthique ». Autrement dit, chacun parle dans son coin et finalement, personne n'arrive véritablement à dialoguer. Pareil, hein, là je vous fais un peu toute une série d'éléments pour poser de façon un peu provocatrice le sujet. Je ne souscris pas à tout ce qui est dit, et puis je pense que d'autres intervenants, beaucoup plus compétents que moi, notamment dans le domaine économique, pourront contester tout ça. Mais c'est dire quand même quelque chose, je trouve qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est-à-dire, il ne faut pas tout de suite dire, non mais vous voyez, j'y reviendrai, hein. La doctrine sociale de l'Église, c'est tellement prophétique en fait que plus personne n'y comprend rien, hein, parce que c'est parfois la réponse, c'est tout à fait prophétique. Bon, ben non, il faut peut-être se demander, ben, s'il y a tellement de gens qui vous disent qu'il y a un décalage entre ce que ça devrait porter comme message et comment c'est reçu, voilà, ça, peut-être ça devrait nous interroger. A fortiori, un des responsables au Vatican de ces sujets, qui était le cardinal Peter Turkson, cardinal ghanéen, qui avait dit au micro de Radio Vatican en 2012, il est temps de dévoiler le secret le mieux gardé de l'Église. Ça n'avait rien d'ésotérico-mystique, ce n'était pas le quatrième secret de Fatima, c'était la doctrine sociale de l'Église dont il parlait pour dire, ben voilà, personne n'y connaît rien dans l'Église là-dessus. Voilà, donc c'est un corpus de textes qui est assez peu connu des catholiques. Et moi, j'ai envie de réfléchir sur pourquoi est-ce que c'est peu connu. Alors, comme je vous disais, on peut, à ce moment-là, partir du récepteur et dire qu'il faudrait le traduire mieux. Donc, on a essayé de faire ça dans l'Église. Vous savez, en 2005 est sorti le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un bon résumé des grandes thématiques de cette doctrine sociale. Puis on s'est dit, bon, mais c'est quand même un peu un gros bouquin, donc on va écrire quelque chose d'encore plus fin. Donc, on a écrit le DOCAT. Je ne sais pas si vous avez aussi déjà entendu parler, qui est encore un résumé du compendium. Donc on essaye d'améliorer la réception de tout ça. Mais on peut aussi s'interroger du côté de l'émetteur du discours, c'est-à-dire de l'Église, en fait. Et c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui, me demander, est-ce que par sa doctrine sociale, l'Église éclaire vraiment notre capacité à nous fidèles et a fortiori aux laïcs, de s'engager dans le domaine politique. J'ai mis des guillemets à politique parce qu'il faut là l'entendre au sens large. C'est politique, économique, sociale, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie de la cité. Ça va, vous voyez un peu dans quelle direction va? Alors, mon côté un peu prof, c'est que j'ai mis quelques objectifs parce que ça me rassure. Si ça vous stresse, vous l'oubliez. Premier objectif, ce sera de revenir un peu sur différentes étapes historiques de la définition que la doctrine sociale de l'Église a donnée d'elle-même. Et puis, je voudrais proposer une petite hypothèse pour alimenter peut-être la discussion en se demandant s'il n'y a pas une absence caractéristique dans ces textes de ce que j'appelle la raison pratique, je reviendrai là-dessus, qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce que cette doctrine est finalement assez mal reçue ou en tout cas n'est pas toujours susceptible d'éclairer comme elle le pourrait l'engagement du chrétien. Donc il y a une partie, si vous voulez, un petit peu constat, et une partie plus prospective, même si la partie constat pourrait être évidemment discutée. Alors je vous propose d'abord un petit historique de la définition que la doctrine sociale de l'Église a donnée d'elle-même, qui nous permettra de voir aussi émerger différents modes de positionnement du catholique dans le monde qui l'entoure. Tout d'abord, si je reviens aux origines de cette doctrine sociale de l'Église, il y a un fait que j'aime bien rappeler, c'est que c'est une doctrine qui est née d'abord du terrain, quelque part, qui est née d'abord de la proposition de laïcs. Alors, qui est née de l'observation du terrain, Jean-Marie Salamito l'a très bien rappelé hier, en rappelant que c'était effectivement l'expérience, à mon avis, tout à fait importante de Léon XIII, avant qu'il ne soit pape, quand il était nonce en Belgique, qui lui permet de voir que le monde de l'époque a changé. Mais c'est aussi parce que, alors qu'il est déjà pape, il reçoit des lettres d'entrepreneurs, de personnalités politiques de son temps, qui viennent de différents pays d'Europe, et qui lui disent, écoutez, très Saint-Père, le monde a changé radicalement, l'Église ne peut pas rester muette sur ces changements. Autrement dit, ce sont des laïcs qui se regroupent, entre autres choses, là je vous ai pris un exemple, à Fribourg en Suisse, autour de ce qu'on a appelé l'Union de Fribourg, qui vont s'exprimer et qui vont envoyer au pape un certain nombre de leurs réflexions. Et chose assez étonnante, Léon XIII leur dit, étonnante pour l'époque, aujourd'hui, voilà, un pape reçoit facilement beaucoup de monde, à l'époque il y avait quand même d'une part des moyens de communication beaucoup moins développés, et puis en même temps, la figure du pape était encore plus sur un piédestal, donc on ne s'adressait pas au pape comme ça directement. Mais Léon XIII leur dit directement, envoyez-moi le fruit de vos réflexions. Ça, je trouve très intéressant, vous voyez, parce que souvent aujourd'hui, la grande question qu'on dit, c'est « Que dit l'Église sur ?» Parfois, c'est bien aussi de se rappeler que la doctrine sociale de l'Église est venue de propositions de laïcs qui disaient justement « L'Église ne dit pas assez de choses sur. » C'est-à-dire que c'est parti dans l'autre sens, que des laïcs ont osé dire « Là-dessus, l'Église est muette et ça ne va pas. » Donc, on aurait besoin d'une parole de l'Église sur ce sujet. Il y a quand même aujourd'hui des tas de sujets, on pourra peut-être y revenir, sur lesquels on aurait besoin d'une parole un peu formalisée de l'Église. Peut-être que la question du revenu universel qui a été posée en fait partie, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il y a peut-être à renverser parfois cette question « Que dit l'Église sur ?» Il faudrait peut-être se demander « Que ne dit pas l'Église sur ?» et « Qu'est-ce qu'elle devrait dire ?» Et c'était la perspective qui était celle de ces laïcs au XIXe siècle. Du coup, au 15 mai 1891, Léon XIII publie donc son encyclique Rerum Novarum sur notamment la condition ouvrière, une encyclique qui vise en fait à proposer beaucoup d'éléments qui nous viennent de l'enseignement très traditionnel de l'Église, notamment d'enseignements issus de la scolastique médiévale, pour les appliquer aux questions de l'ère industrielle. Et on sent bien dans le propos de Léon XIII que je ne dirais pas qu'il y a une forme de nostalgie de la chrétienté. Léon XIII est plus conscient sans doute des évolutions qui sont en cours. Malgré tout, il se dit au fond, alors que les sociétés, notamment européennes, étaient organisées par la pensée chrétienne, leur désorganisation vient aussi du fait qu'elles ne sont plus structurées par cette référence commune. Donc on va leur reproposer sous un autre jour ces références-là pour que, même si les choses ont véritablement changé sur le plan économique, social et politique, elles puissent retrouver une espèce de colonne vertébrale qui a été longtemps celle qui leur a permis de tenir debout. Il dit par exemple, « Puisque la religion seule, comme nous l'avons dit dès le début, est capable de détruire le mal dans sa racine, que tous se rappellent que la première condition à réaliser, c'est l'instauration des mœurs chrétiennes. Sans elle, même les moyens suggérés par la prudence humaine comme les plus efficaces seront peu propres à produire de salutaires résultats. » Si j'insiste un peu là-dessus, c'est pour ne pas tout de suite rentrer, vous voyez, sur des objets, sur la condition des ouvriers, sur la propriété privée, etc., de se situer un petit peu au niveau de la manière dont les papes voient leur prise de parole. Et 40 ans plus tard, le pape Pie XI, donc le 15 mai 1931, dans l'encyclique Quadragesimo Anno, emploie cette expression de doctrine sociale en faisant référence à l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, en montrant bien que ça n'était pas juste un propos de circonstance de Léon XIII, mais que c'est véritablement une tradition que l'Église maintenant va répéter à travers les décennies, de s'exprimer sur ces questions économiques, sociales et politiques. Ce qui m'intéresse, je ne vais pas lire tout le texte, s'il y en a qui sont intéressés, on pourrait le mettre à disposition via les adresses mail ou via Internet. De toute façon, vous les retrouvez sur le site du Vatican, tous ces textes. Ce qui m'intéresse dans cette prise de position de Pie XI, c'est qu'il est malgré tout dans une perspective assez proche de Léon XIII en ce qui concerne la prise de parole de l'Église. C'est-à-dire, on a quelque chose à dire, on a une colonne vertébrale à proposer aux sociétés qui nous entourent, une colonne vertébrale qui va même jusqu'à proposer l'existence et l'avènement d'une science sociale chrétienne. À l'époque, on parle encore en ces termes, de l'idée de dire qu'il y a une manière de faire de la science économique, de faire de la science politique, de faire même de la sociologie qui est chrétienne parce qu'elle est inspirée d'une anthropologie chrétienne. Et c'est parfois un peu l'horizon dans lequel on situe l'émergence des universités ou des instituts catholiques, par exemple en France, ou l'émergence en partie de structures comme les semaines sociales, où on dit qu'il faut qu'on pense aussi une science sociale qui sera susceptible de produire des résultats qui sont conformes à l'anthropologie chrétienne. Donc on a un peu une vision totalisante d'un propos comme ça sur les réalités économiques, sociales et politiques, et qui nous vient véritablement d'une représentation de l'homme, notamment issue de la scolastique médiévale. Voilà, donc, la doctrine sociale de l'Église, dans cette origine, elle est plus qu'un guide, elle est vraiment un moyen de restaurer quelque chose des mœurs chrétiennes dans un monde qui a changé. On prend bien en considération le fait que le monde a changé, mais on se dit, au fond, les solutions chrétiennes, elles ne changent pas, et elles peuvent être valables, moyennant quelques reformulations, au monde qui nous entoure. Je voulais schématiser de cette façon. C'est très schématique. Voilà, c'est de dire, on perçoit bien qu'il y a des changements importants, une question sociale qui est posée par le monde, mais on va y répondre en actualisant une philosophie catholique de toujours. Et on assume un thème de doctrine, c'est-à-dire vraiment quelque chose de solide qui s'impose malgré tout à tout chrétien. Et le texte central là-dessus, c'est l'encyclique Rerum Novarum. Ça va toujours, oui? Vous me dites si ça va trop vite, non? Trop lentement, c'est bon. Alors, on va passer à une deuxième phase dans le développement de cette doctrine sociale, qui sera beaucoup plus brève, mais qui est assez significative. Les différentes phases que je décris ne sont pas nécessairement bien découpées chronologiquement au sens de la durée qu'elles représentent, mais elles sont significatives de changements de position. Cette deuxième phase, elle s'ouvre, en gros, dans les années autour du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, 1962-1965, qui est précédé de toute une réflexion sur, notamment, cette position de l'Église sur l'ensemble de ces questions économiques, sociales et politiques, et qui est surtout précédé, et ça, c'est souvent une clé de lecture du Concile Vatican II qu'on met pas toujours beaucoup en avant, malgré tout par le traumatisme que représente et la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment les découvertes qui suivent la Seconde Guerre mondiale des horreurs de la Shoah, dont on n'a pas immédiatement conscience dès 1944-45, et en même temps cette période des Trente Glorieuses, donc d'une innovation technologique et d'une croissance économique telle qu'on l'a jamais connue. Agressé par la nature quand je parle de la technologie, telle qu'on ne l'a jamais connue pratiquement depuis des décennies. Et on est donc confronté à une forme de doute global, à la fois sur les capacités de l'homme à faire face à certaines menaces, puissance destructrice qu'on n'a jamais connue, bombe atomique, et je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière le film Oppenheimer, par exemple, mais il met bien en avant le fait que les concepteurs de la bombe atomique avaient véritablement conscience du fait qu'on changeait d'époque, à partir du moment où on introduisait une arme qui avait une telle puissance destructrice. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça a évidemment un impact sur la manière dont on conçoit la possibilité d'une prise de parole sur des questions de cette nature du point de vue de l'Église. Donc, on change d'époque, on se rend compte que là, véritablement, il y a quelque chose de neuf qui se passe. Et puis l'Église se rend compte aussi que il y a des choses extrêmement positives qui ont lieu dans la société civile, notamment le développement des institutions internationales. qui ont été utilisés, qui ont été des essais dans les années, notamment dans les années 30, avec la Société des Nations, avec les projets d'unification de l'Europe. Mais ce sont des choses qui véritablement prennent corps après la Seconde Guerre mondiale et que l'Église accompagne avec une extrême bienveillance. Je ne parle pas du contenu des décisions des institutions internationales, mais l'existence même des institutions internationales est très massivement soutenue à son origine par les papes. Le grand moment de cette manifestation, c'est le discours de Paul VI à la tribune des Nations Unies, le 4 octobre 1965. Alors on a beaucoup retenu du discours de Paul VI à ce moment-là, le grand « plus jamais la guerre, jamais plus la guerre, jamais plus les uns contre les autres ». Mais Paul VI a une autre parole qui est très très lourde de sens. Il dit aux délégués des Nations Unies devant lesquels il tient son discours, « Vous êtes sur le plan temporel ce que l'Église est sur le plan spirituel ». Ce qui est quand même une parole extrêmement forte qui consiste à dire « L'Église ne peut que bénir l'existence d'institutions supranationales ou d'institutions qui dépassent, on va dire, les antagonismes nationaux dans ce qu'ils ont de négatif, parce que ça la renvoie quelque part à ce qu'elle est véritablement dans sa catholicité. » Donc vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, complexité du monde, doute et en même temps énormes espérances liées notamment au progrès technologique, et en même temps, finalement, vecteur de transmission d'une parole internationale, d'une capacité à chercher la paix, à discuter, qui est prise en charge par des institutions qui ne sont plus des institutions d'Église, mais qui sont des institutions créées notamment dans le cadre du droit international. Ce qui conduit donc la doctrine sociale de l'Église à se dire, mais à un moment donné, est-ce que le monde ne s'est pas développé d'une façon qui est relativement bonne et qu'il faut reconnaître, avec lequel il faut dialoguer aussi, ça c'est tout l'esprit du Concile Vatican II, et qui est devenu en même temps tellement complexe qu'on n'aurait pas forcément de solution à proposer, et notamment de solution unique, parce qu'on a vraiment conscience du fait que, si on parle du travail dans un pays d'Afrique qui vient d'être décolonisé et du travail aux États-Unis, on ne parle peut-être pas exactement de la même réalité. Et c'est un grand texte de Paul VI, donc en 1971, Octogesima Adveniens, donc publié pour les 80 ans de Rerum Novarum, qui dit la chose suivante. Face à des situations aussi variées, il nous est difficile de prononcer une parole unique comme de proposer une solution qui ait valeur universelle. Très étrange si on regarde ça de façon un pape qui, de Rome, vous dit finalement je ne peux pas vous dire quelque chose d'universel. Telle n'est pas notre ambition, ni même notre mission. Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Évangile, de puiser les principes de réflexion, les normes de jugement et les directives d'action dans l'enseignement social de l'Église tel qu'il s'est élaboré au cours de l'histoire, et notamment en cette ère industrielle, depuis la date historique du message de Léon XIII sur la condition des ouvriers, dont nous avons l'honneur et la joie de célébrer aujourd'hui l'anniversaire. Donc un appel aux communautés locales de discerner avec la tradition de l'Église et l'Évangile, mais en prenant en compte aussi la complexité du monde contemporain. Paul VI se caractérise par le fait qu'il ne parle pas si souvent de doctrine sociale de l'Église. Il parle plus volontiers d'enseignement. Alors, on ne sait pas si c'est une volonté claire et nette. Certains l'ont interprété comme ça, de dire finalement on a un propos qui semble moins ficelé. Ça a été interprété notamment par un grand théologien, même si parfois il est très polémique, et pas toujours extrêmement précis, mais c'est quand même un monstre de la théologie du XXe siècle, qui est Marie-Dominique Chenu, qui commet en 1979 un petit ouvrage qui fait beaucoup de bruit, qui s'appelle « La doctrine sociale de l'Église comme idéologie ». Et dans cet ouvrage, Marie-Dominique Chenu place un curseur en disant « Avant le Concile, on avait une doctrine qui était extrêmement rigide, où l'Église prétendait s'exprimer sur toutes les questions. Et puis, après le Concile, on n'a plus une doctrine, mais on a un enseignement qui est beaucoup plus souple, qui écoute beaucoup plus les réalités des Églises locales. » J'y reviendrai tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais il y a sans doute un peu du vrai dans ce que Chenu percevait là-dedans. En tout cas, on est dans une deuxième phase, c'est-à-dire d'une doctrine sociale qui serait plus un enseignement et qui fait appel à un discernement local et à un dialogue avec le monde contemporain, un dialogue très 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 ouvert, hein, qui va presque être dans la perspective. Paul VI va loin là-dessus, hein, de dire, au fond, on reconnaît tellement ce qu'il y a de bien dans le monde contemporain qu'on en est presque aussi assez émerveillé, et on peut avoir ce sentiment que l'Église ne cherche pas d'abord à donner une parole qui viendrait nécessairement d'une tradition. J'exagère un peu, hein, là, mais c'est pour le propos, pour le côté pédagogique du propos. Si je le schématise, je dirais qu'on a toujours un monde avec lequel on est en échange, mais là, véritablement, beaucoup plus sur l'ordre d'une contribution qui ne cherche pas à accroître, d'une manière ou d'une autre, un plan par rapport à l'autre. Et qui fait appel notamment au discernement des communautés locales de manière de plus en plus importante. Alors, si vous avez deux grands textes à retenir là-dessus, c'est l'encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII, qu'il écrit, entre autres choses, au moment de la crise des missiles de Cuba, qui a aussi un impact absolument énorme, qui donne lieu d'ailleurs à un opéra. Je crois que c'est la seule encyclique qui est mise en musique sous un opéra. Enfin, voilà. Et puis l'encyclique Populorum Progressio, de 1967 du pape Paul VI, qui parle de ces questions de développement et qui prend en compte le fait que la question du développement est devenue extrêmement importante. Deux phases, on va dire jusqu'en 1978. 1978-1979 est une phase de tournant, notamment dans la place des religions par rapport aux questions politiques. Entre autres choses, 1978 pour l'Église catholique, c'est l'élection du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II a quand même une opinion, au-delà de la manière dont il va voir finalement la nécessité de rappeler quand même l'ancrage du Concile Vatican II dans une tradition longue, il a sur les questions économiques, sociales et politiques une volonté de les ancrer dans la tradition longue de l'Église aussi, de façon beaucoup plus nette. Je pense aussi, parce que ça lui vient de son expérience, malgré tout, d'archevêque de Cracovie, de son expérience polonaise, où il se rend compte que, oui, le dialogue et la discussion, c'est bon, mais il y a aussi la nécessité de dire parfois des propos tranchés, et qu'il y a parfois la nécessité aussi d'une résistance avec le monde contemporain. Je ne veux pas trop psychologiser, parce que, évidemment, la doctrine sociale de l'Église, elle dépend de toute une série d'acteurs, hein, donc c'est pas juste, ça vient pas juste d'une invention d'un pape, mais malgré tout, la personnalité particulière d'un pape peut jouer là-dessus. Il va donc donner une définition qui est pour moi un peu la clé du troisième moment que j'identifie dans l'élaboration de cette doctrine sociale, une définition qu'il formalise en 1987 dans son encyclique Sollicitudo Rei Socialis, où il dit « La doctrine sociale de l'Église n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste, ni une autre possibilité parmi les solutions moins radicalement marquées. Elle constitue une catégorie en soi. » Donc là, il rappelle ce que le frère d'ailleurs Joseph Thomas nous disait tout à l'heure. L'Église ne prétend pas proposer par sa doctrine sociale un programme politique à appliquer tel quel. Elle ne prétend pas proposer non plus un modèle de système économique dont il faudrait directement s'inspirer pour pouvoir savoir comment on gère les finances d'un État ou une entreprise. Elle constitue une catégorie en soi, qui est une catégorie du domaine théologique. Alors il ajoute, elle n'est pas non plus une idéologie, mais la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur des réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Son but est d'interpréter ces réalités en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur la vocation de la foi terrestre et transcendante. Elle a pour but d'orienter le comportement chrétien. C'est pourquoi elle n'entre pas dans le domaine de l'idéologie, mais dans celui de la théologie, et particulièrement de la théologie morale. Bon, c'est un texte un petit peu dense, mais d'abord, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il casse complètement notre frère Marie-Dominique Chenu, doctrine sociale de l'Église comme idéologie. Elle n'est pas du domaine de l'idéologie. Bon, alors, il ne cite pas notre frère Chenu, mais on voit bien qui est-ce qu'il a dans le viseur. Et puis surtout, il y a ces deux termes. Elle a pour but d'aider à interpréter, mais elle a aussi pour but d'orienter. Alors on sent bien qu'elle a pour but d'aider à interpréter, là il se situe véritablement dans la lignée des papes d'après le Concile. On a affaire à des réalités extrêmement complexes, il ne s'agit pas de proposer un modèle tel quel, mais elle peut aussi orienter. de façon relativement ferme sur certaines choses vis-à-vis desquelles on ne devrait pas trop réfléchir à une interprétation possible, mais où voilà, certains comportements sont absolument incompatibles avec un comportement chrétien. Et ça, Jean-Paul II le rappelle avec fermeté, on le sait beaucoup dans le domaine de la bioéthique, mais évidemment, il le rappelle dans le domaine de la doctrine sociale. Et en ce sens, le pape François se situe assez nettement dans cette filiation. Par exemple, dans son exhortation apostolique « Gaudate et exultate », il commence en disant « On entend fréquemment que face au relativisme et aux défaillances du monde actuel, la situation des migrants, par exemple, serait un problème mineur. Certains catholiques affirment que c'est une question secondaire à côté des questions sérieuses de la bioéthique. » Et donc, il finit en disant, en citant des différents textes, notamment issus de l'Écriture, et puis termine en disant « Par conséquent, il ne s'agit pas d'une invention d'un pape ou d'un délire passager. » Pour dire, ben voilà, vous voyez, il y a certains catholiques qui disent « Oui, les questions bioéthiques, ça c'est vraiment sérieux, ça concerne la vie, la mort, la famille, ça c'est des valeurs sûres. » Enfin bon, après, les questions, l'Église ne devrait pas quand même trop se positionner sur la question du travail des migrants, etc. Et puis ce qu'elle dit n'oriente pas de façon aussi claire le comportement du chrétien. Là, le pape François dit non, il n'y a pas à faire un supermarché moral. Hein, toutes les questions morales sur lesquelles s'exprime l'Église ont même degré d'autorité. Donc, troisième phase, qui commence avec Jean-Paul II, la doctrine sociale de l'Église, certes, elle cherche à interpréter, mais elle peut aussi avoir une valeur universelle et contraignante. Voilà, c'est pourquoi je la représente dans une troisième phase, qui est un peu, si vous voulez, c'est encore une fois ultra schématique, mais qui est un peu à comprendre comme une forme de prise en compte des deux phases précédentes. Oui, on a bien une contribution au débat, mais on a aussi quelque chose de propre à annoncer comme chrétien, et on a aussi un certain nombre de points sur lesquels on ne transigera pas, parce que c'est le cœur même de notre foi. Donc c'est voilà, un peu le mix, si vous voulez, des deux. C'est pour ça que je l'ai mis en orange. Et là, vous avez deux grands textes, hein, qu'on peut retenir, « Centesimus annus » de Jean-Paul II, qu'il écrit pour les 100 ans de « Rerum Novarum », mais aussi au moment de l'effondrement du bloc communiste en Europe de l'Est, et puis quand même Laudato si du pape François. Trois comportements qui, on pourrait dire, représentent aussi peut-être trois manières, encore une fois que je vais caricaturer, hein, de comprendre la manière dont l'Église se positionne par rapport au monde. On a malgré tout, dans la première période, l'idée que l'on peut refonder quelque chose d'une société chrétienne. Sans doute pas une société où l'Église serait absolument au centre institutionnel des relations avec les acteurs économiques, sociaux et politiques, mais où le poids de son discours est tel qu'elle pourrait les influencer. Dans la deuxième phase, on est beaucoup plus dans une perspective de dialogue avec le monde, comme je vous l'ai dit, mais avec la chance qu'on a d'avoir des institutions qui sont des vecteurs de ce dialogue, et notamment des institutions internationales. Et puis, dans cette troisième phase, on continue cette volonté de dialogue avec des institutions, et j'y reviendrai, qui sont certes vecteurs de dialogue, mais qui sont elles-mêmes de plus en plus faibles, donc sur lesquelles on peut s'appuyer de moins en moins, ces institutions internationales, mais avec le souci d'affirmer une spécificité chrétienne qui fait que le dialogue, à un moment donné, ben, peut s'arrêter sur certains points, parce qu'il y a des points sur lesquels on ne transige pas. Alors, la doctrine sociale de l'Église, de fait, si je m'arrête sur cette définition de Jean-Paul II, oui, elle repose sur une cohérence, et une cohérence souvent que l'on peut manifester à travers les quatre grands principes qui l'habitent. Et ces quatre grands principes, moi j'en retiens quatre en tout cas, il y a des gens qui en retiennent plus, mais peu importe, encore une fois, c'est purement didactique. Les quatre grands principes qui l'habitent, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait très bien dire, de temps en temps, certains sonnent très très à gauche et d'autres très très à droite. Et justement, je vais essayer de vous montrer rapidement, parce que le temps tourne, que ces quatre principes sont toujours à penser et à tenir ensemble. Donc si vous vous posez la question, est-ce que quand on suit la doctrine sociale de l'Église, on devient de droite ou de gauche, je vais vous donner la réponse dans quelques instants. Premier principe, c'est le principe de la dignité de la personne. Dignité de la personne, c'est évidemment le respect de la vie humaine, de son origine à sa fin naturelle. mais c'est aussi le respect de la personne dans sa vie quotidienne. C'est pas juste au début, à la fin, c'est aussi au milieu. Donc, par exemple, le respect de la personne au travail, le respect de la dignité humaine d'une personne qui n'a pas le nécessaire pour subvenir à ses besoins ou à celui de sa famille. Parce que, voilà, on croit en un homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui a vocation à participer à ce corps du Christ dans l'éternité. Le risque, si on ne se focalisait que sur la dignité de la personne, et c'est un risque qui n'est pas mince dans certains mouvements chrétiens, c'est qu'on oublie finalement le collectif et qu'on se situe dans une perspective qui est strictement individualiste. Du type, je respecte la dignité d'une personne singulière, ou je respecte la dignité, ma dignité, et du coup je vais mettre en concurrence ma dignité avec celle du collectif. On pourrait dire ce qui équilibre cette question de la dignité et qui ne la fait pas virer dans un plan trop strictement individualiste, c'est l'ouverture à ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun n'est pas du tout à comprendre, et c'est souvent une erreur qu'on fait, dans l'angle de ce que les économistes appellent les communs, ou les biens collectifs, du type les routes, les rivières, voilà, ce qu'on partage tous ensemble. Il y a cet aspect qui peut exister dans le bien commun, mais le bien commun au sens chrétien est beaucoup plus large. C'est la recherche du bien que l'on vit en communauté, en société. Le fait que, évidemment, je partage des biens matériels avec l'autre, mais que ces biens matériels sont quelque part le socle qui va me permettre de rechercher avec l'autre ce qui est le bien entendu au sens moral. Et même au sens spirituel, de rechercher celui qui est le bien, qui est Dieu même. Donc le bien commun, ce n'est pas simplement dire, voilà, on partage un certain nombre de choses ensemble, matérielles. C'est dire, ces choses matérielles que l'on partage ensemble, elles nous préparent, en fait, et elles nous aident déjà à réfléchir ensemble sur ce qui est bien pour nos communautés, nos sociétés, et cette réflexion sur ce qui est bien est en réalité le socle qui doit fonder l'unité des groupes humains que nous formons. Si on comprenait mal le bien commun, on pourrait le placer du côté d'un excès du collectif sur la personne, en réalité. Mais vous voyez, cette espèce de mise en vis-à-vis de l'individu par rapport au groupe, c'est en fait une réflexion assez moderne qui nous vient soit d'une philosophie libérale, qui va accroître le poids de l'individu en disant non, c'est quand même l'intérêt individuel qu'il faut promouvoir, soit de son miroir qui est le marxisme, qui va dire, maintenant, au contraire, c'est le collectif qui d'abord a sa primauté, on pourrait dire. La pensée chrétienne, elle ne met pas en vis-à-vis, de façon conflictuelle, l'individu et la collectivité. Le bien du groupe, c'est mon bien. Si je cherche mon bien, je cherche en même temps le bien de l'autre, et réciproquement. Donc, il faut faire aller la flèche dans l'autre sens aussi. Si vous voulez, c'est une interaction, une tension entre bien commun, si on lui donne trop de poids, on finit par mal le comprendre et à se dire c'est le collectif qui a plus de poids, et puis dignité de la personne qui, si on l'isolait trop, en viendrait à une forme d'individualisme. De cette tension, on pourrait dire, naît évidemment l'ouverture à une forme de solidarité. Solidarité qui, vous savez, c'est aussi digression, j'espère que je ne vous perds pas en faisant des digressions, mais c'est très étonnant, le terme de solidarité apparaît tardivement dans la doctrine sociale de l'Église, apparaît en 1939. Alors que quand on entend solidarité, on pourrait se dire que c'est super chrétien comme terme. Non, justement, la doctrine sociale de l'Église a un petit peu peur d'employer ce terme parce qu'elle estime que ça sonne justement un petit peu trop collectiviste, un petit peu trop socialisant. Parce que justement, sa crainte, c'est de dire si on promeut trop la solidarité, on va mettre en place des systèmes étatistes, donc où l'État devient une sorte de superstructure qui dépersonnalise finalement les initiatives individuelles, voire de paternalisme, c'est-à-dire j'exerce une charité qui va écraser la dignité de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que l'Église n'accepte jamais. Et donc, elle contrebalance, on pourrait dire, cette solidarité par une forme particulière d'exercice de la charité qu'on appelle la subsidiarité. Vous avez peut-être déjà entendu, j'espère, entendu parler de ce terme. Subsidiarité, donc, qui vient du latin subsidium, c'est l'aide que l'on apporte de façon précise et de façon discernée à une personne, à une structure, pour que cette structure fonctionne au mieux, que notamment la solidarité soit le mieux exercée. C'est, on pourrait dire, la charité qui n'écrase pas la dignité de l'autre, la subsidiarité. Alors, souvent, on peut le voir d'un point de vue de l'organisation étatique, on va dire la subsidiarité, c'est se dire, par exemple, les affaires internationales doivent être traitées au niveau de l'État ou au niveau même éventuellement de l'Union européenne. Et puis le choix des chaises dans une école maternelle, c'est plutôt la commune qui doit s'en occuper. C'est faire en sorte que l'échelon supérieur n'écrase pas l'inférieur et que l'échelon inférieur ne prenne pas des prérogatives qui devraient revenir à l'échelon supérieur. Mais ça a aussi son fondement, pratiquement aussi dans une vie chrétienne tout à fait ordinaire. On pourrait dire qu'un manque de subsidiarité, c'est par exemple aider une personne qui ne l'a pas demandé ou diminuer la dignité de cette personne en lui apportant de l'aide. Un exemple de mauvaise subsidiarité, on pourrait dire, je l'avais entendu une personne aveugle, par exemple, qui me disait « Je ne supporte pas que dans la rue, quand on me voit avec ma canne blanche, on me prenne systématiquement le bras pour me demander où aller. » Ça part d'une bonne intention, mais c'est écraser la part de liberté, de dignité que cette personne peut avoir, et elle demandera de l'aide quand elle en demandera. Voilà, la subsidiarité, c'est ne pas faire intervenir un degré d'aide qui viendrait écraser finalement la dignité de la personne. Donc c'est un élément qui est en tension avec la solidarité, parce que si la subsidiarité était laissée toute seule, elle pourrait laisser finalement place à une forme de communautarisme, c'est-à-dire je n'aide que l'échelon qui est autour de moi. Alors vous me voyez, et puis une forme de libéralisme aussi, puisque la subsidiarité, elle consiste à dire il faut laisser une part d'initiative aux entreprises, aux échelons locaux, aux individus, donc pas trop d'État non plus. Alors vous me voyez venir, si je regarde bien commun et solidarité, je pourrais dire, ah ça c'est des belles idées de gauche. Si je regarde subsidiarité et puis dignité de la personne, genre voilà je défends la vie, etc., bon ça c'est quand même plutôt de droite. Donc, est-ce que le chrétien, il doit dire sa vie politique et sa réflexion politique, c'est un espèce de match nul, si vous voulez, deux partout, deux pour la gauche, deux pour la droite, en gros, et puis je vogue au centre. Je pense que c'est pas ça que la doctrine sociale met en avant à travers ces quatre principes. Moi, je prends plutôt l'exemple d'un catamaran, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fonction de la météo, en fonction peut-être aussi de la manière dont on a l'habitude de naviguer, ça renvoie aussi à ce que nous disait le frère Joseph Thomas tout à l'heure sur l'opinion, on peut mettre le poids un petit peu plus d'un côté ou de l'autre du bateau. Peut-être qu'un jour, la météo fait qu'il faut mettre plutôt le poids du côté dignité. Peut-être qu'en fonction de mes convictions personnelles et puis de mon histoire politique ou de mes idées personnelles, je vais plutôt avoir tendance à mettre le poids du côté solidarité. Le problème n'est pas de mettre plus le poids d'un côté ou de l'autre en fonction de qui je suis ou en fonction de la météo. Le problème, c'est que si je mets le poids, évidemment, de façon excessive d'un seul côté, je fais chavirer tout le bateau. Et je crois que la doctrine sociale de l'Église, par ses quatre principes, elle ne nous dit pas qu'il y a une consigne de vote, ou elle ne nous dit surtout pas qu'il faut voter à l'extrême centre. Pour être dans un espèce de peut-être banque oui, peut-être banque non, vous me mettez un petit peu de dignité, puis je vous mets un peu de solidarité. C'est pas de la négociation de marchand de tapis. C'est de dire, au contraire, on peut avoir des opinions parfois assez différentes comme chrétien, dans la mesure où on tient les quatre principes toujours ensemble, même si on met peut-être plus un poids d'un côté ou de l'autre. Donc il y a une véritable cohérence là-dedans. Et je crois que cette cohérence est quelque chose dont il faut avoir conscience d'une part, mais dont il faut être fier d'autre part. Jean-Marie Salamito le rappelait hier soir, je crois qu'avoir cette colonne vertébrale d'une cohérence qui nous est donnée, même si ce n'est pas une consigne de vote, cette cohérence idéologique, elle dit quelque chose aussi d'une manière dont le chrétien peut apporter quelque chose d'intéressant au débat. Donc une cohérence dont il faut avoir conscience, peut-être qu'il faut creuser et défendre davantage. Et une cohérence qui repose aussi sur la théologie. Et ça, je crois que ça n'est pas non plus à négliger et à oublier. Qui dit une cohérence qui repose sur la théologie, dit aussi le chrétien, il peut apporter au débat contemporain cette capacité à faire un pas de côté aussi par rapport aux questions qui semblent des questions extrêmement brûlantes, extrêmement actuelles, extrêmement nouvelles aussi. Quand on dit très rapidement, ah oui, l'intelligence artificielle, on n'en a jamais connu ça avant. C'est vrai. Mais ça pose aussi des questions que nos prédécesseurs se sont posés d'une manière différente. Donc le fait de pouvoir s'ancrer dans une tradition de pensée qui a plus de 2000 ans est une richesse, je crois, dont on doit avoir conscience, dont il faut qu'on reprenne conscience, et c'est ça aussi qu'on appelle une perspective théologique. Aussi dans une perspective qui nous vient de principes inaltérables. Je crois, par exemple, le fait de dire « il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas », ce n'est pas une perspective de fermeture d'esprit, c'est au contraire une manière de dire « je pose véritablement quelles sont les bases de ma cohérence, encore une fois, intellectuelle ». Et le fait que la doctrine sociale de l'Église soit une théologie, je vous ai mis ici la réflexion du jésuite français Grégoire Catin, mais qui a publié en anglais récemment cet ouvrage « Catholic Social Teaching and Theology », est quelque chose de tout à fait fondamental et qui est de plus en plus mis en avant par les papes. Alors notamment Jean-Paul II dans « Laborem Exercens » sur le travail, mais plus récemment dans « Laudato si », le plan de l'encyclique « Laudato si » du pape François est véritablement un modèle du genre, de ce que l'Église, à mon sens, peut apporter à la discussion sur ces questions. Il commence par un constat, mais ensuite il va proposer une perspective de long terme, en disant le constat sur la crise écologique qui s'est accélérée ces dernières années, si je prends le recul de plusieurs millénaires que la tradition judéo-chrétienne me permet d'avoir, comment est-ce que j'ai aussi une contribution absolument irremplaçable à ces questions dans le monde contemporain? Comment je peux apporter quelque chose? Et comment est-ce que j'intègre aussi une expérience spirituelle? Ce n'est pas juste une manière de me positionner sur les questions politiques. Comment j'y apporte aussi une dimension à proprement parler spirituelle? Je suis en retard. Je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe du timing. Mais bon, comme il n'y a personne, je continue. Donc, j'ai atteint mon premier objectif. Voilà. Mais je vais aller plus vite quand même, rassurez-vous, pour la suite. J'ai vécu 9 ans en Suisse, et je crois que c'était la chose qui m'était le plus difficile en Suisse. C'était qu'il fallait être toujours à l'heure partout, qu'il fallait être toujours respecter les timings, etc. Moi, je trouve que c'est une espèce de dictature consentie à laquelle je n'ai jamais consenti. Et du coup, je suis très bien d'être en France de nouveau, donc je vous remercie de ne pas protester. Bon, alors, deuxième point, là, c'est la partie plus prospective, si vous voulez. Là, ce que je vous ai présenté, c'est peut-être une évolution de ce discours. Comment est-ce qu'il a pu se situer ? Et aussi quelques principes qui nous permettent justement de réfléchir à ces questions concrètes dans lesquelles je ne veux pas rentrer dans les détails. Je me demande aujourd'hui si on n'a pas affaire à l'émergence d'une quatrième phase dans le développement de la réflexion de cette doctrine sociale de l'Église. Et je vais vous l'illustrer à propos du propos justement du pape François dans son dernier encyclique Fratelli Tutti de 2020 sur la guerre juste. Vous l'avez peut-être lu. Le pape François dit « Nous ne pouvons plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une possible guerre juste, jamais plus la guerre. » Numéro 258 de l'encyclique Fratelli Tutti. Vous savez que, très rapidement, l'idée de guerre juste est une idée qui ne vient pas du christianisme, qui vient, voilà, entre autres de Cicéron, mais on pourrait même la faire remonter à plus loin, mais qui est reprise très rapidement par la pensée chrétienne, notamment par saint Augustin dans le Contra Faustum, par Césaire d'Arles aussi, et qui est encore formalisée par Thomas d'Aquin, avec l'idée de dire on peut poser un certain nombre de critères pour dire, dans certains cas très précis, on va justifier à la fois l'entrée en guerre et la manière d'agir quand on fait la guerre. Bon. Dans son propos, le pape François semble dire, au fond, ces critères, ils étaient valables jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, il ne faudrait plus les considérer comme étant aussi importants. C'est ce qu'il dit ici. Comment est-ce qu'il justifie ça? Donc je vous remets ce principe qu'il vient de mentionner, là je vous l'ai mis en bleu, et je vous remets au-dessus les différentes justifications qu'il apporte. Et il en apporte deux. Celle que je vais retenir en premier, qui est en fait la deuxième, consiste à dire que depuis le développement des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, sans oublier la possibilité énorme et croissante qu'offrent les nouvelles technologies, la guerre a acquis un pouvoir destructif incontrôlé. Autrement dit, ce que l'on appelait la guerre du temps de saint Augustin ou de saint Thomas d'Aquin, même encore au début du XXe siècle, n'est plus exactement la même chose compte tenu de la puissance destructrice des armes que l'on a à notre disposition aujourd'hui. et qu'on ne peut plus véritablement parler, par exemple, de riposte proportionnée avec une arme nucléaire, puisque la proportion éventuelle, ce sera la destruction d'un pays tout entier, voire de l'humanité. Donc forcément, c'est sûr que la donne a un tout petit peu changé, l'existence d'armes comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien en morale. On parlait hier de l'usure. C'est exactement le même processus que suit la pensée catholique sur l'usure à travers les siècles. On se rend compte tenu de l'évolution qu'on a de la compréhension d'un phénomène ou des évolutions sociales, que la doctrine sur ce phénomène peut changer. Donc là, je trouve que le propos du pape, il est tout à fait intéressant à prendre en considération. Mais il y a une autre justification, moi, que je trouve plus problématique, avec tout le respect que j'ai pour le pape François et pour tout ce qu'il dit, mais c'est bien parce que j'ai du respect pour ce qu'il dit que j'ai envie aussi que ce soit approfondi. Je dis ça, voilà, sur... Ne tweetez pas la doctrine de la foi que je suis devenu hérétique. On tombe facilement, dit le pape, dans une interprétation trop large de ce droit éventuel. Alors ça, c'est une autre justification qui est assez différente, qui consiste à dire, ah ben, on se rend compte qu'en fait, l'existence du fait qu'on pense à une guerre juste a fait en sorte qu'on utilise de façon abusive ces critères-là. Et donc, on ne devrait plus parler de la guerre juste, parce que, on se rend compte que l'existence, d'ouvrir la porte, même si les critères sont limités, de dire il y a des critères et il y a cette possibilité, fait qu'on s'engouffre là-dedans. Donc il vaut mieux fermer la porte et dire jamais la guerre, et du coup, on ne s'expose pas à la tentation d'utiliser des critères de façon négative. On pourrait dire que c'est la même chose, peut-être en ce qui concerne les migrants, mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Et je me demande du coup si on n'est pas un petit peu dans une quatrième phase, vous voyez, qui consisterait à dire, bien au fond, le discours de l'Église, il ne cherche plus nécessairement à éclairer la pratique politique, la pratique de gouvernants, même pas forcément la pratique de personnes qui prennent des décisions comme citoyens, mais qu'il valorise une dimension très prophétique. C'est-à-dire, le chrétien ne fera pas la guerre, ou l'Église dira toujours non à la guerre, même si elle sait que de toute façon, des gens feront la guerre. Mais elle se positionnera d'une telle manière à dire non à la guerre. Et on pourrait dire que ça correspond, je me dépêche vraiment, 4 minutes, à peut-être une évolution qui est en phase avec la position des catholiques. Peut-être la première manière de voir les choses, on était, je l'ai dit, dans une perspective de deuil de la chrétienté, où il fallait rappeler qu'il y avait une colonne vertébrale que l'Église pouvait apporter. Dans la deuxième phase, on était peut-être dans cette perspective d'une sécularisation qui faisait qu'on se disait, au fond, il y a des valeurs chrétiennes qui nous habitent, qui sont portées par des institutions internationales. On vous en rappelle le fondement par notre propos, mais vous n'êtes pas toujours obligé d'adhérer forcément au christianisme pour pouvoir entendre ces valeurs-là. La troisième phase, c'était la phase que j'appelle, en reprenant ce terme de la sociologue Danielle Hervieux-Léger, qui est aussi repris par le théologien Christophe Théobald, d'exculturation du catholicisme, c'est-à-dire on n'a plus la référence du fait que ces valeurs qu'on défend sont des valeurs chrétiennes. Donc, on va vous le rappeler par notre doctrine sociale et par un discours qui se veut explicitement théologique. On va vous redire, ça vient de l'Évangile et c'est spécifiquement chrétien. Peut-être que cette quatrième phase, elle est une phase... Alors, le terme sonne un petit peu négatif, mais il ne faut pas le prendre uniquement négativement, plus communautariste, qui consiste à dire on a besoin d'être une communauté prophétique qui va vous dire la manière d'agir des chrétiens est différente de la manière d'agir du monde, et notre manière d'agir, pas seulement notre propos, pas seulement notre théologie, doit venir vous interroger. Je vous donne un exemple aussi avec rapidement le capitalisme, puisqu'il me reste 2 minutes. Vous voyez, dans la première phase, le propos de l'Église sur le capitalisme, on pourra y revenir, avait été de prendre en charge une critique assez philosophique du capitalisme. On en trouve notamment des critiques dans les versions préparatoires de l'encyclique Rerum Novarum par le dominicain Liberatore, que je vous ai mis ici en Tigliaria, pardon, Liberatore est un jésuite, que je vous ai mis ici en image. Dans une deuxième phase, l'Église se dit on ne va pas critiquer le capitalisme pour ses fondements philosophiques, parce que ça va nous empêcher de dialoguer avec un monde dont c'est quand même le système économique dominant. Donc on va plutôt critiquer les phases extrêmes du capitalisme, mais pas le fondement même. Là, je vous ai mis une photo, par exemple, du père Joseph Lebret, qui était dominicain, et qui a abandonné toute critique philosophique, par exemple, des systèmes économiques, pour dire ça nous empêche de dialoguer avec le monde contemporain. Donc on va plutôt dialoguer sur des objets. Troisième phase, on va se pencher davantage sur les fondements théologiques. Et puis alors là, vous avez différents penseurs qui vont dire revenons-en quand même à un propos théologique que l'on pourrait avoir sur les questions, par exemple celle du capitalisme. Mais quatrième phase, je vous ai mis une photo de Chiara Lubich, qui est la fondatrice des Focolari. Les Focolari qui ont développé tout un mouvement, vous avez peut-être entendu parler, de l'économie de communion, par exemple, qui consiste à dire il nous faut des entreprises qui fonctionnent, par exemple, selon les principes du monastère bénédictin. Donc des lieux à partir desquels on ne va pas forcément proposer immédiatement un corpus idéologique très très fourni, même s'il y a aussi ça qui existe, mais on va par notre comportement modifier le système qui existe, mais à partir de petites entités, de petites communautés prophétiques, comme celle de ces entreprises d'économie de communion. Le problème, et je vais vraiment m'arrêter là, c'est de se demander, est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu vite, là, une catégorie qui est quand même très classique dans la réflexion morale, qui est la catégorie de l'action, ou de ce qu'on appelle la raison pratique, qui est une catégorie qui est très, très même mise en valeur par la théologie catholique, notamment par Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin donne comme conseil, j'aime bien cette citation, pour la personne qui doit gouverner son peuple, en disant « Attention de ne pas demander à quelqu'un qui gouverne de prendre des décisions qui ne prend pas en considération la capacité d'avancer lentement de ceux que l'on gouverne. Les hommes doivent être éduqués à la vertu, non d'un seul coup, mais progressivement. Autrement, les gens imparfaits, n'ayant pas la force d'accomplir les préceptes difficiles, tomberaient dans des maux encore plus graves, qui se mouchent trop fort, fait jaillir le sang. » Je ne sais pas si c'est une citation qu'il faudrait mettre sur un verset de Profession solennelle, qui se mouche trop fort, fait jaillir le sang, mais c'est une manière dont Thomas d'Aquin dit que la prise en compte de la pratique, de la progression finalement vers le bien, est quelque chose qu'on ne peut pas évacuer. Ce qui est paradoxal, même si on peut le réfléchir et le discuter, c'est que le pape François l'a beaucoup mis en avant, et moi je pense de façon très salutaire, dans sa réflexion sur la morale familiale et sexuelle, en disant on a été beaucoup dans une volonté soit de proclamation d'idéaux, soit d'assomption de petits groupes qui vont respecter la morale de l'Église, mais on s'est peu préoccupé des personnes qui ne peuvent pas toujours suivre les préceptes qui sont donnés. Eh bien, il a dit, il faut aussi que l'Église puisse avoir, sans du tout remettre en cause ses idéaux et sa morale, une parole pour les personnes qui n'en sont pas encore à respecter l'ensemble de ses prescriptions. Il le met en avant pour la famille. Est-ce que lui ne se positionne pas comme de façon un petit peu trop sévère dans le domaine politique, par exemple, quand il dit « jamais la guerre ». Donc, est-ce qu'on n'oublie pas cette question de la prudence et de la raison pratique ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu en train de marcher sur un pas qui voudrait, finalement, faire en sorte que la doctrine sociale de l'Église rentre dans une catégorie dans laquelle était peut-être un petit peu trop tombée la morale familiale et sexuelle ? Mais tout ça, c'est une opinion qui est de l'ordre de l'hypothèse. Donc, si vous le comprenez bien comme ça, je peux cocher ma deuxième case. Et je termine en disant voilà, que ça, c'est un élément qui, moi, me semble important à développer dans la doctrine sociale de l'Église. Comment est-ce que je parle concrètement à des décideurs politiques ? Comment est-ce que je parle concrètement à des personnes qui sont en position de décider face à des situations qui ne sont pas toutes blanches ou toutes noires ? Et puis, peut-être, comment est-ce que je retrouve aussi une pluralité de vocations et une pluralité de conditions dans l'Église ? Tout le monde ne peut pas avoir une vocation radicale. Et tout le monde ne peut pas être, par exemple, un pacifiste. Tout le monde ne peut pas être forcément un économiste absolument vertueux ou un politicien absolument vertueux. Il y a à prendre aussi un discours qui pourrait répondre à des personnes qui ne peuvent pas, dans leur vie, utiliser une position aussi radicale que celle que la doctrine sociale pourrait engager. Et comment est-ce qu'on a un discours pour eux ? Voilà.